et Abdelrachid avec nous ici. Tu vas animer avec moi, Abdelrachid. Tu prends la parole quand tu veux. Donc on va introduire la thématique de ce soir. On n'est pas sans savoir, le 26 février aujourd'hui, on célèbre le Mauloud. Donc la naissance, le verset de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va donc une des grandes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va aborder ce soir, c'est la miséricorde qu'il véhiculait autour de lui, et notamment la miséricorde envers entre guillemets ses ennemis, c'est-à-dire les personnes qui n'acceptaient pas son message.
Et qui l'ont combattu,
oui. Donc on va aborder cette grande thématique qu'est la miséricorde du professeur Hassan.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous tous, chers auditeurs et auditrices. Aïssa, une parenthèse si tu permets, pour rester juste et honnête jusqu'au bout. On avait évoqué la semaine dernière donc la question du quick, halal, pas halal, tout ce que ça a fait. D'ailleurs, bon, en introduction, on a parlé, je t'ai écouté dans la voiture. Donc, on avait mis en évidence le fait que c'était plus ou moins une dérive en pleine période électorale de parler d'un pseudo-problème, puisque ce n'est pas pour nous, du moins, citoyens de confession musulmane, un problème. Quoi qu'il en soit, on a dit ce que l'on pensait, et ce que l'on pensait, ben, on pense que c'est juste à d'autres de nous prouver que nous avons tort, et on est prêt à changer d'avis. C'est pour ça que je suis obligé de reconnaître quand même, puisque j'ai entendu ça tout à l'heure sur France Info et d'autres chaînes de radio, que le maire de Roubaix avait présenté ses excuses à la communauté musulmane, car la réaction de la communauté musulmane, ben, elle ne s'est pas fait attendre. On a réagi, tout le monde a réagi. D'ailleurs, les responsables de mosquées sont allés le rencontrer et il s'est expliqué. Et il reconnaît qu'effectivement, cette affaire a pris une ampleur à laquelle il ne pensait pas. Donc, on le remercie pour ses excuses et on lui dit de continuer dans ce sens, c'est-à-dire d'être à l'écoute. De qui ? Ben, de ceux qui sont les premiers concernés, pour qu'on lui donne des conseils, qu'il sache comment gérer une partie de sa population qui est de confession musulmane, et puis reconnaître ses erreurs quand on est responsable politique, c'est signe d'une honnêteté, et ça reste que le retrait de la plainte, c'est quelque chose de très bien, mais il faudrait retirer maintenant tous les articles de journaux et les accusations qui ont été portées. J'ai écouté hier, quelqu'un m'a fait entendre, je crois que c'était le rédacteur en chef ou je ne sais plus, d'une grande revue, je ne vais pas la citer pour ne pas lui faire de la pub, qui avait résumé cette affaire du clic en disant « la France est en danger ». Ce sont mes mots, je résume. « La France est en danger, il faut vite réagir parce que nous sommes envahis par cette horde de barbares musulmans qui veulent nous imposer leur religion ». En deux mots, c'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce que c'est à cause de cette affaire du CUIC qu'il a dit cela, ou il le pensait et ça a été pour lui l'occasion pour le dire? Je pense plutôt qu'il le pensait, puisqu'on ne peut pas changer d'avis comme ça en 2-3 jours à cause d'une petite affaire. Quoi qu'il en soit, nous devons en tant que musulmans aller vers l'autre pour dialoguer, pour que l'autre nous écoute et que l'autre change d'avis quand il a tort. Et on baisse pas les bras, on continue à travers l'échange, à travers le dialogue, puis on est dans un pays de droit, et que la loi soit appliquée pour tout le monde et qu'elle soit la même. Donc j'espère que cette question du cuic, elle est enterrée, pour toujours, inchallah, et qu'il n'y en ait plus, et qu'on passe au vrai débat politique. Le chômage, c'est ça, la précarité de l'emploi, le logement,
l'éducation.
Tout à fait. Dans le lycée de mon fils, il prépare des grèves pour la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir des suppressions d'emplois. Ça, ce sont des vrais combats pour que notre société aille mieux. Et aussi, la fameuse taxe professionnelle, n'est-ce pas ? Les mairies qui se plaignent, les communautés urbaines, les régions qui vont perdre des millions et qui, sans doute, va être récupérée sur le citoyen lambda. Vous et moi, les propriétaires, les petits salaires. Et la sécurité sociale aussi, très important. Un débat, on est en train de la perdre, cette sécu qui fait notre fierté, puisque on a le meilleur système de protection de santé au monde, mais on est en train tout doucement de le perdre à cause de quoi ? De mille et un problèmes. Hein. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Mm-hmm. En tout cas, on est sûr que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour nous les croyants, car c'est écrit dans le Coran, bil mu'minina raufun rahim. Hein, il était doux, il était miséricordieux envers les croyants. Et ça s'explique, et c'est tout à fait logique et normal qu'un père aime ses enfants et soit doux avec eux. Et c'est tout à fait logique et normal qu'un messager aime ses adeptes et soit à leur service en répandant sur eux la bonté, la miséricorde, la générosité. Sinon, il l'aurait fui. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maintenant, ce qui est extraordinaire, quand on étudie la vie de ce messager, le dernier, le plus grand, le plus beau, le messager de la miséricorde, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour toutes les créatures. Mm-hmm. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était une miséricorde envers qui ? Envers ceux qui ont refusé de croire en son message. Voire, il était miséricordieux envers ceux qui l'ont combattu. Et aujourd'hui, on va parler justement de ces gens qui l'ont rejeté, repoussé, combattu, dénigré. Et vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Et on doit en tirer des leçons. Hein. On n'en parle pas pour en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous. Le premier exemple que l'on va citer, c'est celui d'Abu Jahl. Abu Jahl, qui est un grand détracteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un notable de la Mecque, qui un jour va défier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire même défier le Seigneur auquel il croyait, puisque les Mécois n'étaient pas athées. Ils croyaient en Dieu, leur égarement c'était le shirk, l'association. Mm-hmm. Ils croyaient en une multitude de divinités en plus du Dieu des cieux et de la terre. Qu'est-ce que dit Abu Jahl dans sourate Al-Anfal ? Il dit « Allahumma in kana hada huwa al-haqqa min 'indik fa amtir 'alayna hijaratan min as-sama'i aw itina bi'azabin alim. » Au Seigneur, si ceci est la vérité venant de toi, donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager de Dieu et ce qu'il nous enseigne c'est la vérité qui vient de toi, alors Seigneur, lapide-nous du haut du ciel, maudis-nous, détruis-nous, punis-nous. La logique et le bon sens auraient été qu'ils disent au Seigneur, si ceci est la vérité, guide-nous vers cette vérité. Mais c'est l'arrogance d'Abu Jahl qui va jusqu'au bout de son aveuglement, puisque c'est la vérité, ben alors vas-y, j'y crois pas, cet homme, je le condamne, et t'as qu'à me punir. Réponse coranique extraordinaire, les versets du Coran veulent dire beaucoup de choses. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dieu n'a pas et ne les punira pas parce que tu es parmi eux. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une assurance et une garantie. Pour qui ? Pour ses ennemis. C'est-à-dire ta présence parmi eux fera qu'ils n'encourront pas la colère de Dieu, le châtiment, le courroux divin. Si ça, c'est pas de la miséricorde, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Ya Muhammad, si ils sont encore vivants, ils respirent, ils mangent, c'est grâce à toi. Parce que ton message, c'est un message d'amour, et non pas un message de haine et de violence. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu implorer son Seigneur pour justement que la malédiction s'abatte sur eux. D'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé, non ? Donc il n'aurait que ce qu'il mérite. Ça n'aurait jamais été une injustice. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Bien au contraire. Un de ses compagnons, qui s'appelle Tufayl ibn Amr al-Dawsi, qui s'est converti à l'islam, qui était le chef de sa tribu, les Daws, retourne vers sa tribu, les invite à l'islam, et il refuse de se convertir. Il revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, les Daws, les miens, ma tribu, ne veulent pas embrasser l'islam. Alors je viens vers toi afin que tu implores la miséricorde, la malédiction de Dieu sur eux. Je suis venu te voir pour que tu demandes à Dieu de les rayer de la carte de l'Arabie pour que Dieu les maudisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre en ces termes, Inni lam ub'as la'anan. Dieu ne m'a pas envoyé comme malédiction pour maudire les gens. Innama bu'itsu rahmatan, mais il m'a envoyé comme miséricorde. Et le hadith, il est dans Muslim. C'est-à-dire, on n'est pas en train de raconter des fables. Mm-hmm. Nous sommes en train de raconter des événements, des histoires, des paroles de notre prophète auxquelles nous croyons. C'est notre conviction, ça. Ça fait partie de nous-mêmes. Mm-hmm. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne à ce compagnon qui est en colère envers son peuple. En fait, il les aime tellement qu'il leur veut du bien, qu'il ne supporte pas leur égarement. Le prophète lui dit non. C'est pas ça mon objectif sur terre. Venir pour que la malédiction s'abatte sur les gens. Au contraire, je suis venu pour les aimer, leur apprendre à aimer. Et c'est la même chose qui va arriver une autre fois. Après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être agressé, violenté. Vous vous rendez compte? Il y a les, Ibn Abi Rahib a fait un piège. Il a creusé un trou pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe dedans. Effectivement, le prophète est tombé dans ce trou. Il a reçu des coups, si bien que son casque lui a pénétré les joues. On lui a cassé les dents. On a tué son oncle bien-aimé Hamza ibn Abd al-Muttalib. 70 de ses compagnons sont tombés au combat. Ils lui ont fait tout cela. Et après cette bataille où le prophète et ses compagnons ont souffert, on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, prophète, haya, puisque Dieu t'entend, il exauce tes vœux, demande à Dieu de les maudire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Mm-hmm. Vous vous rendez compte? Regardez dans quelle situation il est, regardez ce qu'il vient de subir et la réaction du commun des mortels, c'est quoi? C'est la vengeance. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne le contraire. Au Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Au Seigneur, pardonne à mon peuple. C'est-à-dire, pardonne à ceux qui m'agressent. Mm-hmm. D'accord? Pardonne à ceux qui viennent de commettre tous ces crimes. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de leur égarement. Et mon objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de les éclairer. Et on est venu lui dire au prophète, demande à Dieu de maudire Daous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, guide les Daous. Hein? Et notre tribu. Au Seigneur, guide-les. On lui a demandé de les maudire, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire de ce qu'on lui demande. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans sa tête. Vous savez, la haine, le rejet de l'autre. Ça va plus loin. Regardez ce qui lui est arrivé. Il va dans une des villes importantes de l'Arabie, du Najd, à côté de la Mecque, une soixantaine de kilomètres, Taif. Il entre en contact avec les notables de la ville. Il entame un dialogue, un échange. Voilà qui je suis, voilà mon message. Il les invite à embrasser l'islam. Refus. Khlas, vous avez le droit. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, d'être ou de ne pas être musulman. Donc vous avez vu, il n'a pas passé un coup de fil à ses généraux pour qu'il débarque avec une armée et qu'il élimine ces gens qui refusent de croire comme voudraient le faire croire certaines personnes. Mmh. Hein, l'islam, c'est la religion de la violence et de la force qui s'impose par la force. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire, vous savez c'est quoi? Il leur a dit « Oktomu anni », c'est-à-dire « N'ébruitez rien de cette discussion, ça reste entre nous, c'est une affaire classée. » D'accord? Pas la peine de passer ça aux 20 heures, d'accord? Parce que vous allez quoi? Vous allez mettre la haine dans les cœurs des gens. Vous refusez de croire, c'est votre droit, on vit en paix, malheureusement. Regardez l'intolérance de chez qui elle vient, vous savez ce qu'ils font? Ils appellent vite les adolescents, les jeunes, les délinquants de Taïf, et ils leur ordonnent de quoi de lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va être lapidé alors qu'il est venu dialoguer. Il ne les a pas insultés, il ne les a pas condamnés. Au contraire, il leur a dit on reste en bon terme. Regardez comment ils vont lui faire payer cette tolérance, cet amour, cet échange. Et il a été lapidé. Rendez compte, le messager de Dieu. Mais nous croyons en ce que nous sommes en train de dire, hein. Certains ne croient pas qu'il s'agit de Dieu, que Dieu n'existe pas. Donc, ça peut, tout ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être des fables. Mais essayez de nous comprendre. Nous, musulmans, nous croyons sincèrement, fermement, entièrement que ceci est arrivé. Regardez dans quelle situation nous sommes. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fuit la ville de Taïf. Il se réfugie dans le verger. qui était d'ailleurs entretenu par un des ouvriers qui s'appelait Adas, qui était un chrétien, qui va avoir pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va ramener au prophète de l'eau, il va lui ramener un peu de raisin. Et quand le prophète lui demandera son nom, son origine, où il habite, il lui dira: je suis de la ville de Ninive, Naïnawa. Il lui a dit: la ville de mon frère Jonas, Younus alayhi salam. Et après s'être reposé, après avoir pensé ses blessures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je lève la tête vers le ciel, hein, tellement il a souffert, pour implorer son Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un nuage. Un nuage qui descend et qui se rapproche. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce nuage? Tout d'un coup, il voit l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, qui a à ses côtés un ange qu'il n'a jamais vu. L'ange Gabriel le salue et lui dit: à Mohammed, ton Seigneur est au courant de ce qui t'est arrivé. Ok, Dieu était au courant. Et là, on voyait cet ange qui est l'ange des montagnes. Et cet ange, il attend de ta part juste un signe du doigt, le feu vert. Pourquoi? Pour les punir. Ouais. Et il est prêt à quoi? Il est prêt à les écraser entre les deux montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à cet ange, qui est venu pour venger le messager de Dieu. Donc, Dieu sait très bien comment son prophète va réagir, puisqu'il sait tout. Mais tout ceci, c'est un scénario divin pour que nous comprenions qui est ce messager. Et là, on va vraiment comprendre qu'il est un messager. Car si c'était un être humain comme les autres, oui, un minimum de... Regardez ce qu'il va dire, sallallahu alayhi wa sallam. Il dira: non, il est hors de question qu'on commette un génocide. Car si eux, les plus âgés, ne sont pas ouverts d'esprit, j'espère que leurs enfants, leurs descendants, seront un peu plus ouverts d'esprit. Et pourquoi punir des innocents, les enfants? À cause de ce que les parents ont fait. Et j'ai espoir qu'avec le temps, les gens changent et évoluent. Si ça, c'est pas de la miséricorde envers ses détracteurs, envers ses ennemis, alors il n'y a pas d'autre miséricorde. Il est, subhanallah, la miséricorde par excellence envers qui? Envers ceux qui l'ont combattu. Et on va citer, inshallah, aujourd'hui des dizaines d'exemples qui vont dans ce sens.
Bien, voilà, que là, on fait que pour cette première partie, hein, donc des anecdotes, des passages comme ça de la biographie du professeur Salem, particulièrement pour mettre en exergue sa grande miséricorde vis-à-vis de tout le monde, et y compris ses détracteurs. Bien, que là, on fait que Cheikhouna. Mahdi, tu peux nous lancer quelques minutes de pause, Inch'Allah. On se retrouve tout de suite après. Je rappelle le numéro du standard, 03 20 73 59 00. Vous n'hésitez pas si vous voulez appeler. Il n'y a aucun souci. À tout à l'heure, Inch'Allah. Dans votre soir, dans le Pastel FM 99.4, il est à peu près 21h. Donc voilà, toujours avec Cheikhouna Hassan Ekinsen, avec nous Abdel Rachid, et à la technique Mahdi, 03 20 73 59 00. Si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci, vous nous appelez 0320 73 59 00.
On continue donc la miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ceux qui le combattaient. L'exemple de Soumama ibn Asal, il est frappant. Ça, c'est un grand, hein, d'une des tribus de l'Arabie, qui, bon, pour parler comme parlent les jeunes, il a pété les plombs. Il a décidé de quoi? Il a décidé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en va à l'aventure, il arrive à Médine et il questionne les compagnons: où est Mohammed? Pourquoi? Je suis venu le faire taire. On dit: bah, avant que tu l'atteignes, tu devras passer sur nous. Il a été maîtrisé. On l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ya Rasulallah, le voilà. C'est le seigneur des Banu Hanifa, Soumama ibn Asal. Il est venu pour te tuer. On lui a retiré. On attend ton feu vert. Pourquoi? Pour
L'exécuter.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: est-ce que vous lui avez donné à boire et à manger? Subhanallah. Et là, les compagnons sont choqués. Comment, ya Rasulallah? Il est venu pour te tuer, et on va lui donner à boire et à manger. Il a dit: naam. Et il a bu, il a mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé. Et il a dit: niyat, il est hors de question que je me soumette et je me convertisse à cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à ses compagnons: vous l'attachez à ce pilier de la mosquée. C'est notre prisonnier. Et pendant 3 jours, Soumama ibn Asal va vivre dans la mosquée. Il est logé dans la mosquée. Il est nourri. Et en plus, après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vers lui et dialogue avec lui. Et c'est toujours la même réaction, non, je ne serai pas musulman. Et après les 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, libérez-lui, rendez-lui ses armes, qu'il rentre chez lui. Khlas. C'est une affaire classée, on a fait notre devoir, on lui a donné la possibilité de quoi ? De comprendre, il a pris les choses comme il voulait, Allah aoun. Et Soumama s'en va, heureux. N'importe quel président aujourd'hui, hein, qui se fait agresser, attaquer, ou la personne elle est arrêtée, elle est emprisonnée, au moins elle a 10 ans de prison, bref.
Torturé.
Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remet ses armes, et il s'en va. Quelques instants plus tard, il revient. Mais ce n'est plus la même personne. Là, il vient, il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu et tu es bien son messager. Les compagnons sont choqués. Il dit ça fait 3 jours. Quelle mouche t'a piqué maintenant ? Il a dit tant que j'étais prisonnier chez vous, je ne voulais pas exprimer ma conversion à l'islam, car j'avais peur que vous craigniez que j'ai fait cela juste pour échapper à votre justice. Mais là, sachez que je suis devenu croyant par conviction, sans aucune pression. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas de pression avant. Et pour vous dire, regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers quelqu'un qui est venu le tuer. D'accord ? Et qu'est-ce que va faire Soumama ibn Hassan ? De Médine, il va à la Mecque. Et à la Mecque, il décide de faire le petit pèlerinage, la Umrah. Et comme le téléphone arabe fonctionne bien, les Mécois sont vite au courant qu'il est devenu musulman. Et là, ils se mettent à quoi ? À l'insulter en lui disant, tu t'es égaré, hein, t'as renié la religion de tes ancêtres, etc. Sabaouta. Et là, Soumama, qui est quand même, je veux dire, un seigneur, il leur dit, bah, puisque c'est comme ça, je jure par le Dieu des cieux et de la terre que vous n'aurez plus un grain de blé. Vous les Mécois. C'est-à-dire la Mecque était ravitaillée de l'extérieur. C'est-à-dire que les caravanes qui passent par mon territoire, je l'ai, quoi ? Un blocus. Mmh. Et effectivement, il a fait un blocus sur quoi ? Sur la Mecque. Et après quelques mois, les Mécois ont commencé à connaître la disette, la faim, la famine. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Les Mécois vont se diriger vers qui pour sortir de cette galère que Soumama leur a imposée ?
Professeur.
Et ils vont à Médine rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation et un porte-parole. Abou Soufiane qui prend la parole et qui dit à Mohammed, vite, sauve ton peuple.
Ton peuple.
Ah, Kada, ils l'ont dit. Mon peuple, ces gens qui m'ont expulsé de ma demeure, de ma ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dû quitter la Mecque, il a pleuré. Mm-hmm. Et il a dit, Wallah, tu es la terre la plus, la plus belle, la plus noble, si ce n'était ce peuple ingrat qui m'expulse de la Mecque, jamais je la quitterai. Mais ça a été une souffrance, une difficulté pour les compagnons. Ils ne l'ont pas quitté de gaieté de cœur, la Mecque. Hein. Et donc, ce peuple qui m'a fait subir tout ce que j'ai subi, moi et mes compagnons, tu me demandes maintenant, toi, Abou Soufiane, de quoi de venir à son secours ? Et qu'est-ce que va faire le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam ? Il va vite envoyer un fax. À qui ? À Soumama pour lui dire, arrête l'embargo. Et les Quraysh vont quoi ? Vont retrouver leur train de vie habituel. C'est pas beau ça ? Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de la pitié, de la miséricorde envers qui ? Envers ses ennemis qui l'ont combattu, envers ce qui était injuste. Et aujourd'hui, subhanallah, ce qu'on appelle l'ordre, hein, ou plutôt le désordre international, ils n'ont même pas
l'once
de miséricorde qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Gaza, puisque le blocus de Gaza dure depuis 3 ans, on est presque dans la 4e année, et les femmes et les enfants et les malades et tout ce que vous voulez qui hurlent, qui pleurent matin, midi, soir, et personne ne les entend. Alors que regardez, et c'est impossible qu'un Gazaoui aille à l'ONU aujourd'hui et leur dise ayez pitié de nous, ils ne l'écouteront pas, ils ne l'entendront pas. Et regardez les Mécois qui avait tort. Nous croyons que les Razaouis ne sont pas les oppresseurs. Les oppresseurs sont ceux qui font cet embargo contre eux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va répandre sa miséricorde sur qui ? sur les Mécois. Une autre anecdote par rapport justement à ces Mécois, c'est quoi? C'est à nouveau la sécheresse, la disette et la faim. Et à nouveau Abou Soufiane va venir et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sauver son peuple. Abou Soufiane, n'oubliez pas qu'il a combattu, qu'il a dirigé des armées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, regardez même comment ces gens-là pouvaient en sécurité rencontrer le prophète. Hein, il n'y avait pas de trahison, il n'y avait pas de félonie de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chef de l'ennemi qui vient à Médine, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec lui. Vous avez vu? C'est pas... Allez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les messagers ont quoi? Une immunité. T'as pas le droit de toucher à un messager. C'est impossible. Celui qui vient, même ton ennemi, pour dialoguer avec toi, tu dois dialoguer avec lui et l'accompagner jusqu'à ce qu'il rentre chez lui en toute sécurité. C'est comme ça que l'islam a enseigné. D'ailleurs, c'est ce que dit le Coran. Il dit dans le Coran, « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » C'est incroyable. Et si quelqu'un te demande l'asile, alors donne-lui l'asile. Si quelqu'un te demande la protection, accueille-le chez toi ou dans ton pays, et ton devoir est de le protéger contre tout qui pourrait l'atteindre. Et permets-lui de dialoguer avec toi. Fais-lui écouter et entendre ta vérité. Et ensuite, accompagne-le jusqu'à son lieu où il sera en sécurité. Regardez ce que l'islam enseigne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un beau-fils qui n'était pas musulman, Saïd ibn al-As. La fille du prophète était à Médine, son mari qui aimait bien sa femme était à la Mecque. Qu'est-ce que va faire Saïd ibn al-As? Il va venir en cachette rejoindre sa femme à Médine. Et le matin, en pleine prière du matin, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à haute voix, crie dans la mosquée, Saïd ibn al-As est sous ma protection. D'accord? Donc c'est un ennemi. Mm-hmm. Ouais. Il pénètre à Médine en cachette, elle l'accueille, et qu'est-ce qu'elle dit? À haute voix, hein, c'est pas... Il est sous ma protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa prière, il se retourne et il dit à son auditoire, Wallahi, je viens de la prendre comme vous. Et c'est pas un coup monté, hein. Je viens de la prendre comme vous. Et nous devons respecter quoi? Nous devons respecter ce principe, ce droit de protection qui, lorsque un citoyen l'offre à quelqu'un, tous les musulmans doivent respecter. Vous vous rendez compte? Yani, si un musulman dit « Hada, il est sous ma protection », alors que c'est un criminel, c'est un ennemi, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que c'est un droit. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à sa fille, ouais, « Il reste ton mari sur les papiers, mais pas dans l'essai. » D'accord? Tu l'accueilles. Walakin, on attend de voir comment ça va se terminer avec lui.
C'est un peu la convention de Genève.
Tout à fait, exactement. Les conventions de l'époque étaient respectées à la lettre. Par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abou Soufiane vient, il dit à Rasulallah, ton peuple, il va disparaître, la sécheresse, la faim. Qu'est-ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va réunir ses fidèles dans la mosquée, astaghfirullah, à l'extérieur de la mosquée, et il va faire ce qu'on appelle salatul istisqa, la prière de la pluie. Pour qui?
Pour
ses ennemis, ceux qui le combattent, de la Mecque. Salatul istisqa. Et qu'est-ce qui va arriver? La pluie va tomber. Et les Mécois vont être sauvés grâce à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu la miséricorde du prophète? Elle tombe du ciel. Ouais. Il n'aura pas dit, oh magnifique, vous êtes à bout de nerfs, vous êtes à bout, vous allez bientôt... Ouais, comme dirait aujourd'hui n'importe quel, bien fait pour eux, ça vous apprendra. Non, il a imploré Allah, pourquoi? Pour qu'ils aient à boire. Et ça, on va entrer tout de suite dans l'expression la plus belle, non, elles sont toutes belles en vérité, une expression extraordinairement belle de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque le prophète a décidé en l'année 6 d'aller faire le petit pèlerinage, la Umrah, et arriver à la Mecque, on lui a interdit de pénétrer dans les lieux saints. Alors que c'était un droit pour tout le monde. D'accord? On lui dit, tu n'entreras pas à la Mecque et tu ne feras pas le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste au faubourg de la Mecque, dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah, et il va y avoir des pourparlers entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dirigeants de la Mecque. D'accord ? Donc, ils sont en train d'enfreindre les droits les plus élémentaires. Hein ? On est en période de mois sacré, donc on ne peut pas porter atteinte à la vie de quiconque. Nous sommes des pèlerins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec ses pèlerins, en habit de pèlerin, avec ses bêtes qui doivent être sacrifiées. Il veut juste pénétrer à la Mecque pour accomplir son pèlerinage, puisque le pèlerinage s'accomplit à la Mecque, hein, la Kaaba, le Safa et le Marwa, etc. Et injustement, les Mécois, qui sont ingrats, regardez, il vient de les sauver là, à maintes reprises, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu ne feras pas le pèlerinage.
Et ça, c'est après la sécheresse et tout ça.
Oui, c'est de la hogara par excellence.
D'accord.
Hein, c'est de l'injustice, c'est de la méchanceté, c'est du mépris du droit international. D'accord ? De l'époque, du droit national. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et les pourparlers vont commencer. Jusqu'à ce que Suhail ibn Amru, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que c'était lui la troisième fois qu'il venait discuter, le prophète était très optimiste. Il a dit Suhail, enfin. Souhaï, c'est-à-dire le facile. Il a dit, Dieu va nous faciliter les choses. Hein? Allez, c'est pas de la superstition, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait toujours voir le côté positif des choses. Qui vient dialoguer, parlementer, Souhaï. Donc, Dieu va nous faciliter les choses parce qu'il s'appelle le facile. Mm-hmm. D'accord ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'assoit avec lui. Pourquoi ? Pour faire un traité. Un traité de paix. Une trêve. On appelle la trêve d'El-Hudaybiyah. Ça consiste en quoi ? Regardez. Ils ont réussi à trouver un accord. Il faut un scribe, quelqu'un qui va écrire. Ali ibn Abi Talib est désigné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dicter les clauses en présence de Souhaïl, sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Écrit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. C'est une formule qui est belle, non ? Vous ne trouvez pas clément, miséricordieux ? Souhaïl dit stop, je ne suis pas d'accord avec cette formule. Car nous, on ne connaît pas Rahman, le miséricordieux. Écris comme nos ancêtres écrivaient, Bismikallahumma, au nom de toi Seigneur. D'accord ? Donc regardez jusqu'où va l'entêtement des Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, efface. Écris, comment ça ? Attends, c'est rien, on va fermer l'œil sur ça, on va faire une concession. D'accord ? Non, on ne va pas s'arrêter sur... C'est un détail. Et Ali écrit, Bismikallahumma. Voici ce sur quoi se sont mis d'accord Mohammed, le messager de Dieu, et Souhaïl ibn Amru. Il dit, stop, efface. Je ne suis pas d'accord avec ta formule. Si tu étais le messager de Dieu, on ne serait pas dans cette situation. On ne te reconnaît pas comme messager de Dieu. Tu écris Mohammed, le fils de Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, efface. Et là, Ali dit, ils exagèrent quand même. Mm-hmm. Si eux, ils ne te reconnaissent pas, nous, on te reconnaît quand même. Non, efface, c'est rien. On ne va pas s'arrêter sur les détails. On a un objectif qui est noble, il faut l'atteindre, même si on doit y laisser des plumes, même si on doit faire des concessions. Écoutez bien ce qui va se passer. On s'est mis d'accord sur quoi ? Regardez. 1. Vous ne ferez pas le pèlerinage cette année. Eh oui. Comment ? On a fait 600 km. Ok, on fera pas le pèlerinage, c'est trop. Vous ferez pas le pèlerinage. Point final. 2. Vous ferez le pèlerinage l'année prochaine sous nos conditions, c'est-à-dire vous pourrez pénétrer à la Mecque pendant 3 jours. Après 3 jours, vous partez. Et en plus, vous viendrez pas avec les armes de guerre, juste les épées dans leur fourreau. Pas de lance, pas d'arc, pas de chevaux, rien, pas de côte de maille. Comme ça, si on veut faire la peau, on vous la fait facilement. Sous-entendu, c'est moi qui le dis, ça. Mmh. Écris. Ali doit écrire. Vous ne ferez pas le pèlerinage. 2. Vous ferez le pèlerinage l'année prochaine, 3 jours, après vous sortez, et sans armes. Et c'est dur. Parce que c'est à nouveau une concession. On est à la 4e. Hein? D'accord ? Et c'est de pire en pire, les concessions. Ouais. 5e, écrit. Si jamais un musulman se sauve de nos prisons mécoises dans lesquelles on les torture, on les prive de toute liberté, et vient se réfugier auprès de vous musulmans de Médine, vous devez nous le rendre. Pourquoi ? Pour qu'on le remette en prison et qu'on le torture. Écrit. Et le prophète écrit. Là, c'est trop, là, quand même. C'est de l'injustice par excellence. Le prophète accepte. C'est une concession. On est à la cinquième. Sixièmement, si jamais un des vôtres musulmans quitte Médine, renie l'islam, ou c'était un espion, un hypocrite, et il vient nous rejoindre à la Mecque, on ne doit pas vous le rendre. Mais c'est un sens unique, hein. Ouais. Écrit, le prophète écrit. On est à la combien ? La septième concession ? Ouais. Huitièmement, si une tribu décide de vous rejoindre, elle sera soumise à ce traité. Et si une tribu décide de nous rejoindre, nous, mais quoi, elle sera soumise à ce traité. D'accord ? Bon, ça, il n'y a pas de concession puisque c'est équitable, les mêmes droits. Et on arrive au huitième point. C'est lequel ? C'est pendant 10 ans, on fait la paix. C'est la trêve. Et ça aussi, c'est dans les deux sens. Ça arrange les musulmans puisqu'ils acceptent et ça arrange les ennemis puisqu'ils acceptent. Regardez, sur 8 points, 6 concessions, ouais,
deux
équitables, donc ça veut dire que les musulmans ont perdu 6-0. Oui ou non ?
Oui.
Et c'était une vraie défaite pour le commun des musulmans. La preuve, c'est quand Omar ibn al-Khattab, le grand Omar, va interpeller le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, prophète, comment fais-tu pour signer un traité comme celui-ci alors que nous sommes perdants ? Pourquoi doit-on se rabaisser alors que nous sommes dans la vérité ? Pourquoi est-ce qu'on fait ces concessions alors que nous sommes les opprimés et ce sont eux les oppresseurs ? Et Omar est en colère, il ne comprend pas. Il va, il interpelle Abu Bakr et Abu Bakr lui dit, c'est le messager de Dieu. On doit lui faire confiance. C'est n'est crainte. C'est vrai, c'est dur à avaler. Ils ont à peine fini d'écrire et signer que Suhail ibn Amr avait un fils qui s'est converti à l'islam. Et ce fils était quoi ? Il était prisonnier. Et il le faisait souffrir pour qu'il renie l'islam. Il a réussi à se sauver. Et il arrive dans le camp. Il a encore ses chaînes. En criant aux musulmans, au secours, aidez-moi. Vous savez ce que dit Sohail ? Il dit, vous nous le rendez. On commence
tout de suite.
Tout de suite l'application du traité. Vous savez ce que dit le fils de Sohail ? Il dit à Rasulallah, tu vas me rendre à ses ennemis alors que voilà ce qu'ils me font et voilà ce qu'ils vont faire. Le prophète lui dit, on n'a pas d'autre solution. On a signé. Ouais. Va, Dieu te donnera une autre solution. Regardez, et ça, les musulmans ont du mal à l'avaler. Ouais. Parce qu'ils ne voient pas. C'est injuste. Hey. Regardez ce qui va se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons après ce traité, rasez-vous la tête, enlevez vos cheveux. Quand on fait le pèlerinage, on se rase la tête. Allez, bien qu'on n'ait pas pu pénétrer à la Mecque, on se rase quand même la tête. Refus. Refus d'obéissance. Eh oui. Ils étaient encore sous le choc.
Les compagnons ont refusé.
Les compagnons ont refusé. C'est la première fois que ça arrive. Le prophète rentre dans sa tente en colère. Sa femme, Oum Salama, le voit dans cet état. Elle lui dit, « Ya Rasulallah, qu'as-tu ?» Il lui dit, « Les musulmans sont perdus. Je leur ai donné un ordre, ils ont refusé. » Elle lui dit, « Ya Rasulallah, comprends-les. » Ils se sont pris du...
6-0.
À 7-0. Ouais. Vous savez ce qu'elle va lui dire ? Regardez la bonne épouse qui conseille bien son mari. Elle lui dit, tu sors, tu appelles ton coiffeur et tu te rases les cheveux devant eux, ouais, et ils vont te suivre. Et c'est exactement ce qu'il a fait et ils l'ont suivi. Et vous savez ce qui va se passer ? Dieu va révéler une sourate du Coran qui s'appelle la sourate la victoire. La victoire. C'est ce qu'elle dit la sourate ? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Nous t'avons donné une victoire éclatante.
Sur ce traité ?
Oui, ce traité est une victoire éclatante.
Non, non.
Et les compagnons du prophète, ce traité est une victoire ? Allez, 6-0 et on a gagné ? Oui, Dieu l'a appelé une victoire. Et pas n'importe quelle victoire. Hein. Une victoire éclatante. C'est-à-dire la plus belle, la meilleure des victoires. Pourquoi ? Parce que dans ce traité, il y a une clause. La trêve, la paix pendant 10 ans. c'est bon, on a gagné. Pourquoi est-ce qu'on a gagné? Parce que l'objectif du diable, l'objectif des gens qui sont mauvais, c'est qu'il y ait entre les gens des conflits. Vous entendez? C'est entretenir le conflit entre les gens. Parce qu'il y en a qui pêchent dans les eaux sales. Je vais vous donner un exemple tout simple aujourd'hui pour que vous compreniez. Normalement, un être humain, normalement constitué, il veut quoi? Il veut qu'il n'y ait pas entre les êtres humains de guerre. On ne doit pas se faire du mal, c'est ça? Alors expliquez-moi c'est quoi cette course vers l'armement. Expliquez-moi c'est quoi ces États qui dépensent des millions dans la recherche. Pourquoi? Pour développer des armes qui ont pour objectif de massacrer le maximum de personnes dans le minimum de temps. Oui ou non? Vous allez me dire, oui mais attends, c'est quand même la dissuasion. J'accepte. J'accepte le principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Celui qui veut la paix prépare la guerre, hein, le proverbe romain, si tu veux la paix prépare la guerre. Et j'accepte qu'effectivement il faut avoir des armes pour dissuader un éventuel ennemi. Ok, mais expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'on fabrique des armes qui ont pour objectif de tuer des enfants? Ce qu'on appelle les mines antipersonnelles. Hein? Au moins, si vous faites la guerre, faites-la de manière propre. On jette des millions de tonnes de mines, c'est des petits trucs, hein? Tu ne les vois pas, tu marches dessus, tu exploses. Et même à un moment donné, en Afghanistan, quand il y avait la guerre avant avec les Russes, ils jetaient des mines qui avaient des formes de jouets. Combien de gosses ont été amputés? Ça tue même pas la personne, mais ça l'handicape toute sa vie. Alors que parfois la mort est un repos et une récompense par rapport... Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est quand des bonnes consciences ont tout fait pour qu'il y ait des conventions pour interdire la prolifération de ce genre d'armes. Ouais. Ben, y a des États qui refusent de signer. Et en particulier, ceux qui nous font des leçons de démocratie, les États-Unis, qui refusent de signer la convention, je ne sais plus, de Kyoto, je ne sais pas quoi, contre la fabrication des armes antipersonnelles. La Chine aussi, elle refuse, parce que ce sont les plus grands fabricants, les plus grands vendeurs, les plus grands exportateurs de machines à tuer l'être humain. Très bien, on nous parle d'armes non conventionnelles, c'est ça ouais. Allez. Des armes conventionnelles, non conventionnelles. Et pourquoi vous les fabriquez, puisqu'elles sont non conventionnelles? On est dans un monde où les gens sont prêts à dépenser des millions de milliards pour exterminer l'autre ou entretenir la peur, la misère sur Terre, et on appelle ça la civilisation. Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des concessions douloureuses. Pourquoi? Pour atteindre un objectif qui s'appelle la paix. Parce que quand il y a la paix, il y a dialogue, il y a échange. Et c'est ça qu'on veut, nous. On veut que les êtres humains vivent, hein, à travers quoi? À travers notre connaissance, le dialogue, se faire du bien mutuellement. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce que on y croit réellement. D'autres diront, oui, non, attendez, vous voulez ça parce que vous voulez répandre votre religion. C'est ça? Je lui dis, et alors? Et pourquoi c'est un mal de répandre sa religion? Le mal, c'est d'utiliser la force pour répandre la religion. Mais discuter, dialoguer avec les autres et être convaincant, si bien que l'autre est convaincu, bah, tout le monde le fait tous les jours sur Terre. Regardez, en ce moment, les gens, ils passent partout, ils distribuent des tracts dans les boîtes à lettres, c'est ça? Les politiques. C'est quoi l'objectif? Bah, c'est de convaincre les citoyens à voter pour tel programme. Depuis quand c'est un mal d'essayer d'appeler l'autre à rejoindre mes idées que j'estime être bonne, juste, utile pour toute l'humanité? C'est pas un mal en soi. Oui, mais la religion, c'est pas la même chose. Donc vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Et en vérité, nous, musulmans, on ne cherche pas à imposer la religion. Parce que nous croyons sincèrement, du fond du cœur, que la majorité des gens ne seront jamais musulmans. Et ça ne nous empêche pas de dormir, parce que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Pour atteindre un objectif qui s'appelle la paix. Parce que quand il y a la paix, il y a dialogue, il y a échange. Et c'est ça qu'on veut, nous. On veut que les êtres humains vivent, hein, à travers quoi? À travers notre connaissance, le dialogue, se faire du bien mutuellement. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce que on y croit réellement. D'autres diront, oui, non, attendez, vous voulez ça parce que vous voulez répandre votre religion. C'est ça ? Je lui dis, et alors ? Et pourquoi c'est un mal de répandre sa religion ? Le mal, c'est d'utiliser la force pour répandre la religion. Mais discuter, dialoguer avec les autres, et être convaincant, si bien que l'autre est convaincu, bah, tout le monde le fait tous les jours sur Terre. Regardez, en ce moment, les gens, ils passent dans les, partout, ils distribuent des tracts dans les boîtes à lettres, c'est ça ? Les politiques. Mmh. C'est quoi l'objectif ? Bah, c'est de convaincre les citoyens à voter pour tel programme. Depuis quand c'est un mal d'essayer d'appeler l'autre à rejoindre mes idées que j'estime être bonnes, justes, utiles pour toute l'humanité ? C'est pas un mal en soi. Oui, mais la religion, c'est pas la même chose. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord ? Et en vérité, nous musulmans, ne cherchons pas à imposer la religion. Parce que nous croyons sincèrement, du fond du cœur, que la majorité des gens ne seront jamais musulmans. Et ça ne nous empêche pas de dormir, parce que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les êtres humains sur terre seraient des musulmans. Donc, qu'est-ce que veut notre Seigneur ? C'est ce qu'il veut. Il veut que les gens restent libres. Et que personne ne leur impose quoi que ce soit. Et toi en particulier, mon messager. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Vas-tu forcer les gens à devenir croyants ? Ce n'est pas ta mission. Wa ma anta alayhim bimusaytir. Je t'ai pas envoyé pour les écraser, les dominer. Mais au contraire, je t'ai envoyé pourquoi ? Pour échanger. Donc, la victoire éclatante dans le Coran, c'est laquelle ? C'est la paix à laquelle aboutit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a signé cette trêve. Et Omar ibn al-Khattab dira, j'ai jeûné toute ma vie et j'ai libéré des esclaves toute ma vie pour que Dieu me pardonne mon comportement, mon arrogance contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là parce qu'il n'avait pas compris. Hein, il était sous les sentiments. D'accord ? Et c'est vrai, quand quelqu'un subit une forte pression, il ne réfléchit plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste zen. Il a le recul et il sait ce qu'il veut. Il veut quoi ? Il veut que toute crispation qui existe entre lui et les autres disparaisse. Même si je dois y laisser des plumes, c'est-à-dire faire des concessions. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va respecter ce traité, cette trêve ? Oui ou non ? Qui va faire que cette trêve va être rompue ? On voit ça après une petite pause, Inch'Allah.
Je vous en que, Cheikhouna, donc la suite des événements après la trêve de Hudaybiyah, c'est ça ? Donc après cette courte pause, Inch'Allah, Mahdi, tu peux nous lancer quelques récitations de Coran. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va reprendre la thématique de cette émission pour les 20 dernières minutes, cher Khouna Hassan, sur la miséricorde du prophète sallam à l'égard de tout le monde et particulièrement des personnes qui l'ont combattu. On a fait un rappel sur le traité de Hudaybiyah, donc la trêve de 10 ans. Et maintenant, on va s'intéresser sur... Il y a une rupture de trêve et on va voir dans quelles circonstances.
Il est impossible que la rupture vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète a toujours respecté ses engagements, il n'a jamais trahi. Hein, il est connu pour cela, et la trahison ne fait pas partie de son être. Ainsi, la trahison, la rupture va venir de qui ? Des Quraysh. Hein, une tribu alliée à Quraysh, soumise à cette trêve, va s'attaquer à une tribu alliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a signé une trêve, les gens vivent en paix, et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous attaquez à des innocents, et vous tuez, vous pillez, vous massacrez. C'est trop. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va sauter sur l'occasion. Pourquoi ? Pour changer l'ordre. Car, astaghfirullah, ce n'est plus de l'ordre, c'est du désordre. Ces gens ne veulent pas respecter la loi, ne veulent pas respecter leur engagement, rien du tout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décide de leur donner une leçon. Qui est la suivante ? Réunit son quartier général, il leur dit, nous allons prendre la Mecque. Donc la Mecque, c'est le symbole de l'Arabie, hein.
La capitale, on va dire.
La capitale. Et d'ailleurs, beaucoup de tribus arabes ne voulaient pas se convertir à l'islam sous prétexte que si l'islam était la vérité, la Kaaba qui est la maison de Dieu serait entre les mains de qui ? Du prophète de l'islam. Puisque la maison de Dieu est entre les mains des ennemis de ce prophète, donc c'est dire que Dieu est avec eux. C'était leur logique. Hein, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entrer victorieux à la Mecque, qu'est-ce qui va se passer ? Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Quand est-ce que les gens vont entrer dans la religion en masse ? Quand justement la Kaaba va changer de camp. Hein ? Les gens vont dire ah, Dieu maintenant est avec Mohammed puisque sa maison est en, il l'a remise à qui Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit et qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de prendre la Mecque, mais de la prendre d'une manière extraordinaire. Primo, silence, on ne bruite pas. Il ne faut pas que ça arrive aux oreilles des Quraysh pour les prendre par surprise afin d'éviter quoi ? D'éviter toute effusion de sang. D'accord ? Car s'ils sont au courant, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se préparer, ils vont coaliser d'autres tribus, et là ça va être un affrontement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas la guerre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un de ses compagnons va vivre un moment de faiblesse, il s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rédiger un texte qu'il va donner à une femme qu'il va payer, il va lui dire « Vite, envoie ça à la Mecque pour les prévenir. » Et cette femme va prendre la route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être averti par l'ange Jibril alayhi salam. Il va interpeller Ali ibn Abi Talib et Al-Miqdad, il leur dira « Allez à tel endroit, Raudat Khar, une oasis, vous allez y trouver une femme, allez avec elle une missive, une lettre écrite par Hatib, envoyée au Quraysh, dans laquelle il les prévient. Ils vont y aller, ils vont trouver la femme, ils vont lui demander la lettre, elle va nier bien entendu, et lui diront, écoute, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Donc tu as la lettre, tu vas nous la donner, sinon on passe à l'action. On va te fouiller, on va la récupérer. Elle a compris que, bon, avant les Arabes, ils n'avaient qu'une parole, ils n'en avaient pas deux. Elle leur a dit, retournez-vous. Elle va retirer son voile et sortir la lettre de sa tresse. Elle l'avait nouée dans sa tresse pour qu'elle soit invisible. Et ils reviennent avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va convoquer Hatib ibn Abi Balta'a. Il dira, alors, ya Hatib, qu'est-ce que ça ? Et il dira, ya Rasulallah, je n'ai pas fait ça par hypocrisie ou pour trahir le messager de Dieu. Hein, je suis toujours un musulman sincère qui veut le bien de l'islam et des musulmans. Mais sache que tes compagnons ont tous de la famille. Quant à moi, je suis un étranger installé à la Mecque. Ma famille est là-bas et j'avais peur des représailles des Quraysh sur ma famille. Alors j'ai fait ce geste pour protéger ma famille à la Mecque. D'accord, vous avez compris ? C'est pas la trahison de sa part, mais c'est une faiblesse. Bon, et c'est pas ce qu'il fallait faire. Omar ibn al-Khattab, qui était présent, a dit « Ô messager de Dieu, donne-moi l'ordre d'exécuter ce traître. Ouais. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira « Non. » Car Dieu a dit à ceux qui ont fait la bataille de Badr, donc vous avez vu, c'est un grand compagnon qui a fait la bataille de Badr, Dieu a dit « Quel que soit le péché que vous ferez, vous serez pardonné. » Parce que vous avez fait un grand sacrifice. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des dizaines de milliers de ses hommes, il se dirige vers la Mecque. Effectivement, ils seront pris par surprise, n'auront pas le temps de réagir et de se préparer militairement pour faire face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses dizaines de milliers d'hommes. Ça se termine comment ? Dans un bain de sang ? La vengeance ? La violence ? Loin de vous, toutes ces considérations. Nous avons affaire à la miséricorde de Dieu sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama ana, je suis moi, exclusivement quoi ?»« Rahmatun muhdat » c'est-à-dire la miséricorde offerte par Dieu à l'humanité. Hein, je suis une miséricorde qui a été offerte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ordonner à ses hommes de pénétrer dans la ville et il enverra des héros qui vont transmettre ce message. Toute personne qui se réfugie dans l'enceinte de la Kaaba sera sauve. Toute personne qui se réfugie dans la demeure d'Abou Soufiane sera sauve. le chef de la Mecque. Toute personne qui reste chez elle, qui ne prend pas les armes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera saine et sauve. Donc, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recherche pas la confrontation, l'affrontement. Et il était gagnant s'il devait y avoir affrontement, puisqu'il a des dizaines de milliers de soldats contre la Mecque. Il aurait très bien pu leur dire, ceux qui veulent la bagarre, sortez tout de suite, on va régler nos comptes. Non. Ceux qui restent chez eux n'ont rien à craindre. Pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remettre un de ses nombreux étendards, un de ses commandants qui s'appelle Sa'd ibn Ubada, qui est un musulman de Médine. Et Sa'd prend son étendard et son bataillon, et là, il va prononcer une formule qui dira Al-Yawma Yawmul Malham. Aujourd'hui, c'est le jour, c'est ma traduction, de la vengeance. Aujourd'hui, les Quraysh vont payer. Les habitants, les Mécois vont payer la facture. Et c'est arrivé aux oreilles de qui ? C'est arrivé aux oreilles d'Abu Soufiane. Et Abu Soufiane va vite interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager de Dieu, voilà ce qu'a dit Sa'd ibn Ubada. » Et comprenez Sa'd ibn Ubada, c'est un Médinois. N'oubliez pas, l'année 3 de l'Hégire, la bataille de Uhud, 64 musulmans de Médine ont été exécuté, tué par les Quraysh. Donc, il y a l'esprit de vengeance. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le convoquer. Et il va lui retirer l'étendard. Et oui.
Ce qui est un honneur.
Oui, bien sûr. Il va lui retirer. Et vous savez ce qu'il va lui dire ? Il va dire, non, tu n'as pas compris, Sa'd. Al-Yawma Yawmu Al-Marhama. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon, de la miséricorde. Le contraire. Et la Mecque va être prise. Vous vous rendez compte ? Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les rassembler. Et leur tiendra un discours. Alors, à quoi vous attendez de ma part ? Il leur dit, on te connaît. Tu es le généreux, le pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira, alors vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes libre, vous n'avez rien à craindre, je ne vous ferai rien du tout. Si ce n'est 9 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est 9 personnes qui sont des criminels, qui ont tué des gens en particulier, qui réclament le droit du sang, ceux-là, vous les arrêtez, ils seront jugés et exécutés. Ben, vous savez ce qui va se passer ? Sur les 9, il y avait une femme. 4 parmi eux vont venir et se convertir à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira, vous êtes libres, fini. Il y en a un parmi eux qui va même se sauver. Il s'appelle Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl. Il n'a pas supporté la défaite. Et il va fuir. Et sa femme va venir et dire, ô messager de Dieu, est-ce que tu peux me donner une assurance, une garantie que Ikrima n'aura rien s'il vient vers toi et discute avec toi. Il a dit, tu as ma parole. Elle est allée voir son mari, là où il s'était réfugié, caché. Elle lui a fait comprendre qu'il n'avait rien à craindre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ikrima, le fils de Boujal, reviendra et il embrassera l'islam. Vous vous rendez compte, après tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, un jour, il y a un musulman qui va blesser Ikrima en lui disant, tu es Ikrima, le fils d'Abu Jahl. En vérité, il ne s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Amr ibn Hisham. Et Abu Jahl, c'est un surnom, un titre qui est péjoratif. Hein, le père de l'ignorance. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira aux musulmans, dans un hadith, ne faites pas de mal aux morts, car vous blessez les vivants. Eh oui.
Même s'ils ont été...
Tout à fait. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec qui ? Avec la fille d'Abu Lahab. Il y a quelqu'un qui l'interpellait en lui disant, oh toi la fille de celle qui va accroupir en enfer. Ouais. Elle est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ya Rasulallah, il y a des gens qui me font du mal en disant du mal de mon père et de ma mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ne faites pas du mal aux vivants en disant du mal à leurs parents qui sont morts. Elle est respectée. hein, la mémoire de ces gens-là, même si on n'était pas d'accord avec eux, et puis du respect pour leurs descendants, leurs enfants. Vous voyez jusqu'où va la miséricorde du prophète, même envers ceux qui ne sont plus là et qui l'ont combattu. D'accord ? Donc, regardez la Mecque, comment ça s'est terminé. Et, la cerise sur le gâteau, vous savez c'est quoi ? C'est qu'on dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prophète, où tu vas t'installer ? Et on aurait pu s'imaginer que le prophète allait retrouver sa maison, hein, puisqu'il a été expulsé, on lui a confisqué ses biens. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, je vais planter ma tente. Je lui ai dit, ouais, mais tes demeures, ta demeure. Il a dit, ma demeure, ce n'est plus la mienne. Aqil, mon cousin, m'a tout confisqué mes biens. Regardez, il n'est même pas allé récupérer. Et d'ailleurs, ça va être la règle pour tous les compagnons. Personne ne va chercher à récupérer ses biens, que ce soit sa maison, que ce soit ses meubles, que ce soit ses terres, car ils ont tout laissé pour Dieu. Vous entendez ? Celui qui délaisse une chose pour Dieu n'a pas à revenir sur cette chose-là. Regardez, pas d'esprit de vengeance, même pas de, entre guillemets, de justice. Ils n'auraient fait que récupérer leurs biens. Non.
Pas de butin non plus.
Oui, rien. Rien. C'est allez-vous-en, vous êtes libre. Et vous savez ce qui va se passer ? Certains, malheureusement, sont encore têtus. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas se plier à cette vérité. Ouais. Les Hawazin et les Ratafan, des très grandes tribus arabes, qui vont se coaliser et exciter beaucoup de bédouins contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir détruire ce que le prophète a construit. Et après à peine 10 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit quitter la Mecque pour aller arrêter ces envahisseurs qui sont venus par milliers avec leurs femmes et leurs enfants et leurs biens, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire une bouchée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses hommes. Et ça va être la fameuse rencontre, bataille de Hunayn. Ouais, juste après cette prise de la Mecque. Et ce qui va se passer, c'est que les musulmans vont connaître la défaite dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été trompés par leur grand nombre. Ils pensaient qu'ils allaient facilement avoir le dessus sur ces tribus-là. Wayaouma Hunayn, dans la sourate 9, Tawba, Dieu dit, et le jour de la bataille de Hunayn, iz a'jabatkum katsratukum, lorsque vous avez été atteint par le péché de l'orgueil, en pensant que vous étiez supérieur aux autres parce que vous étiez plus nombreux. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui donne la victoire. Ouais, ça va être vite réparé, et les Ratafan vont quoi ? Vont perdre cette bataille, fuir. Et les lâches, ils vont abandonner leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va récupérer tout ce butin. Et vous savez ce qu'ont fait les Ratafan qui sont venus pour en découdre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils vont venir pleurer, c'est ça, et dire au prophète, rends-nous nos biens. Et qu'est-ce que va faire le prophète de la miséricorde? Allez, ses ennemis qui sont venus, alors qu'il était en paix à la Mecque, hein, l'exterminer, il va leur rendre leurs biens. Subhanallah. Et il va leur rendre leur bien. C'est impressionnant quand même. Et tout cette miséricorde, ce comportement explique de manière claire et nette la conversion des Arabes avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ça fait combien ? Ça fait 21 ans, 22 ans qu'ils le combattent. Ouais. Et il les a eu avec quoi ? Il les a eu avec un comportement irréprochable. Il les a eu avec cette miséricorde qui s'exprimait sous toutes ses formes. Et bon, l'émission touche à sa fin, mais sachez qu'il y a encore énormément d'exemples qui vont dans ce sens, et beaucoup de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit une parole qui est authentique, qui est dans le sahih de l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis un être humain comme tous les êtres humains, c'est-à-dire j'ai des faiblesses. Je peux oublier, je peux m'emporter, me mettre en colère, c'est ça ? Alors Seigneur, regardez ce qu'il dit, si jamais j'ai insulté quelqu'un ou j'ai maudit quelqu'un sous l'effet de la colère, alors je te demande que cette insulte ou cette malédiction se transforme en bénédiction et en bonheur et en bien-être pour cette personne. C'est-à-dire au cas où il n'a pas fait, hein. D'accord ? Prophète, ne maudissez pas. Il a dit, le croyant n'est pas quelqu'un qui maudit. Au cas où j'aurais fauté, par mégarde ou par colère, alors je me rattrape. En te demandant de quoi ? En te demandant de bénir ces personnes qui auraient subi mon oubli, ma faiblesse, ma colère. Mm-hmm. Vous vous rendez compte ? C'est pas au quotidien, il était miséricordieux uniquement envers ses ennemis. C'est même dans l'hypothétique. Hein, au cas où j'aurais fait, alors ceci, alors cela. Donc on ne peut pas trouver plus miséricordieux que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, hein, on l'accuse hein, d'être quoi ? D'être. C'était l'objectif des caricatures, c'était quoi ? C'était de faire penser que le prophète est un terroriste et que tous ceux qui le suivent sont des terroristes, c'est ça ? Donc l'islam est la religion de la terreur qui a pour objectif de terroriser les gens, et ceux qui ne veulent pas être terrorisés vont être condamnés à quoi ? À disparaître. C'est-à-dire au cas où il n'a pas fait, hein. D'accord ? Le prophète ne maudissait pas. Il a dit, le croyant n'est pas quelqu'un qui maudit. Au cas où j'aurais fauté, par mégarde ou par colère, alors je me rattrape. En te demandant de quoi ? En te demandant de bénir ces personnes qui auraient subi mon oubli, ma faiblesse, ma colère. Mm-hmm. Vous vous rendez compte ? C'est pas au quotidien, il était miséricordieux uniquement envers ses ennemis. C'est même dans l'hypothétique. Hein, au cas où j'aurais fait, alors ceci, alors cela. Donc on ne peut pas trouver plus miséricordieux que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, hein, on l'accuse hein, d'être quoi ? D'être. C'était l'objectif des caricatures, c'était quoi ? C'était de faire penser que le prophète est un terroriste et que tous ceux qui le suivent sont des terroristes, c'est ça ? Donc l'islam est la religion de la terreur qui a pour objectif de terroriser les gens, et ceux qui ne veulent pas être terrorisés vont être condamnés à quoi ? À disparaître.
Ce qu'il disait un peu, l'islam s'est propagé par, pas par la paix, mais par l'épée. Alors que là, ça a été démontré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme.
Tout à fait. Si l'islam s'était propagé par l'épée, il n'y aurait pas autant de musulmans, puisqu'ils auraient été exécutés, les gens. Donc jamais il n'y a eu d'obligation de conversion. Parce que le Coran dit la ikraha fid din, point de contrainte en religion. Et le Coran dit que nous devons, par exemple, le respect à nos parents qui ne sont pas musulmans. Donc s'il devait y avoir la conversion par force, les premiers qui auraient été forcés à être convertis, ce sont les parents de ces enfants musulmans. Mais non, le Coran aujourd'hui nous dit, tes parents, tu dois les accompagner, tu dois rester à leur côté, tu dois leur faire du bien. Et juste une petite exception, c'est s'ils te demandent de désobéir à Dieu, là tu ne désobéis pas. Mais tant qu'il respecte ta conviction, qu'il ne t'empêche pas de pratiquer, toi, tu dois obligatoirement les respecter, les servir, leur obéir. Et le fait qu'ils ne croient pas, c'est pas ton problème. D'accord ? Parce que c'est Dieu qui veut que les gens soient libres de croire ou de ne pas croire en lui.
C'est vrai que Hassan, cette thématique est très intéressante et je souhaiterais, si de la faisabilité, que dans une de tes interventions à passer les femmes, effectivement, tu parles sur le respect des parents. Parce que c'est des constats qu'on voit, que ce soit dans nos familles respectives ou qu'on voit dans la rue par des constats, des comportements qu'on voit certains qui parlent à leur mère, qui ont la limite de l'irrespect. Tu vois, ce serait vraiment faire un rappel aussi par rapport aussi aux convertis, qui est effectivement le respect des parents, même s'ils ne croient pas, même s'ils ne croient pas, même s'ils critiquent la religion sans effectivement le côté, ce n'est pas une obligation de ce côté-là, mais que, surtout le respect des parents qui effectivement commence à se perdre.
Tout à fait, il se perd malheureusement, et c'est un crime dans notre société aujourd'hui que de laisser ces enfants sans intervenir au niveau éducatif. Ouais, pour respecter les parents. C'est la catastrophe. C'est-à-dire, si les petits ne respectent pas leurs parents, ils ne respecteront pas l'enseignant, ils ne respecteront pas les notables, ils ne respecteront pas la force publique, ils ne respecteront plus rien. Même, je veux dire, la place publique, ils ne la respecteront pas, puisque les parents n'ont plus de valeur à leurs yeux. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre aurait de la valeur. Oui, on essaiera d'en parler à travers, justement, l'exemple et les exemples donnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était le misère, les parents, puisqu'il nous a éduqués, il nous a enseigné comment on devait se comporter avec eux.
On rappelle aussi que Bon, ceux qui pourraient nous reprocher de dire, voilà, on célèbre le Mauloud, on le célèbre en rappelant une des personnalités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on pourrait donner leur conseil, cher Rona, de profiter pas forcément de le Mauloud, mais d'une manière générale.
Oui, c'est le moment pour mettre l'accent sur qui était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment de mettre en évidence, en exergue, la miséricorde du prophète. Et dans nos mosquées, normalement, et même à l'extérieur de nos mosquées, il devrait y avoir des activités, d'accord, pour que les musulmans découvrent la miséricorde prophétique et pour que nos concitoyens non musulmans la découvrent aussi, cette miséricorde. Donc c'est malheureux, je sais pas, bon, peut-être que je m'avance un peu trop vite, qu'à Roubaix il n'y ait pas eu aujourd'hui, demain, la semaine dernière, la semaine prochaine ou dans 15 jours, des activités dans les mosquées. Pourquoi ? Pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas un reproche que de fêter le Mauloud en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, c'est en notre honneur, d'accord ? Puisque on doit mettre en évidence ce beau jour, parce que c'est le plus beau des jours pour nous. Le prophète, la miséricorde est née. Et sans cette miséricorde, on serait peut-être pas là.
Jazakallah khair, Cheikh Rona, au plaisir de se retrouver sur ce plateau. Abdelrachid qui m'accompagnait à l'animation, enfin qui a plus été auditeur qu'animateur.
Je peux te dire un petit mot, je sais que c'est oubliez pas les dons pour la mosquée Abou Bakr qui est toujours en projet. Là, c'est le vice-président qui prend la parole.
Qui
plaide pour sa paroisse. Donc c'est la mosquée est en. Et le projet sera bientôt, on va déposer le permis de construire, Inch'Allah. Mais là, on a besoin vraiment, vraiment de vous, que ce soit par rapport aux finances ou par vos idées. Donc, trois places fédérales, vous êtes les bienvenus sans aucun souci.
Inch'Allah.
Donc là, ce sera l'occasion de vous accueillir ici avec notamment Falib qui est globalement au cœur du projet et qui pourra nous faire un bilan de l'avancée de la mosquée à Abou Bakr. Mahdi, à la technique, on va rendre l'antenne. On va passer le relais à l'émission Safina sur la culture du chant religieux proposée par GMFX en Tourcoing. Et nous, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine à partir de 20h sur la prophétie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Wa alaikum salam, Inch'Allah.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément reste cependant mal connue.